Chapitre 3. Aucune expédition avant la nôtre n'avait installé autant de cordes fixes, la solide corde miracle du diacre par-dessus le marché, si bien qu'aucun alpiniste n'avait pu jusqu'ici descendre du camp 5 avec une telle relative facilité. Du moins, était-ce le cas en théorie. En l'occurrence, les nuages étaient si épais et les rafales atteignant 80 km à l'heure si puissantes et sporadiques, que le trajet de retour sur l'arête, la pente de glace et le glacier, ce samedi 19 mai, fut pour moi un vrai cauchemar. Certaines baguettes étaient restées en place, mais d'autres avaient été arrachées par le vent nocturne ou couchées et recouvertes de neige. Au moins 100 fois, entre l'éperon de l'arête nord et le col nord, je dus prendre des décisions rapides. Est-ce que je vais tout droit, à droite par cette goulotte d'aspect familier, ou à gauche sur cette partie plus raide? Je ne cessais de me rappeler les goulottes que nous avions vues en plein jour pendant notre ascension, qui partaient vers l'est et se terminaient en impasse. Cette fois, chaque mauvais choix pouvait se solder par une chute de 1800 mètres jusqu'au glacier du Rongbuck. De sorte que je pris peu de voix sur la droite quand il n'y avait pas de baguette surmontée d'un drapeau pour la marquer. Mais par deux fois, un mauvais tournant à gauche me fit conduire les deux cordées sur la face nord de l'Everest, là où il y avait aussi des précipices et autres pièges cachés. Les deux fois, je nous fis retraverser dans l'autre sens pour retourner sur l'arête nord et descendre jusqu'à trouver la corde fixe suivante permettant de se repérer. Lorsque nous nous retrouvâmes dans la neige jusqu'à la taille, sur une pente un peu moins raide, j'en conclus que nous ne devions plus être très loin au-dessus du col nord. J'arrêtai donc la cordée et fis signe à J.C. de venir prendre ma place et mon appareil à oxygène pour nous guider entre les crevasses.
« N'oubliez pas que je veux récupérer le sac à dos !»
lui dis-je en le lui tendant avant d'aller m'attacher au bout de notre cordée. Le sac contenait mon pistolet de détresse avec ses cartouches, mes lunettes, une gourde vide, un pull et une demi-barre de chocolat. Jean-Claude progressa bien plus vite que moi. Il trouva une zone du champ de neige recouverte d'une couche de glace et nous la fit descendre presque en glissade malgré nos crampons. Je me rendis compte alors qu'après la mort de Babou, j'avais eu mon comptant de glissade pour une seule expédition. Il n'empêche qu'à peine plus de 2 heures après notre départ du camp 5, J.C. nous guida à travers le dernier champ de crevasses invisibles pour rejoindre le petit groupe de tentes plantées dans l'ombre des hauts séracs dans le coin nord-est du col nord. Le camp était vide.
« Tout le monde était effrayé », expliqua Lobsang Sherpa. « Hier soir, j'ai porté volontaire pour monter vous prévenir. Les autres veulent redescendre.
« Pourquoi ?» demanda le diacre. « Puisque les yétis étaient soi-disant en bas, tout le monde aurait dû se sentir plus en sécurité au camp 4. »
Lobsang secoua la tête presque violemment.
« Les yétis grimpent !» dit-il. Ils vivent dans des grottes en haut du col. Ils étaient très en colère contre nous.
Le diacre ne prit pas la peine de contester la logique du Sherpa terrifié. Moi, je lui aurais au moins demandé pourquoi des yétis auraient commencé leurs exactions au camp de base s'ils étaient furieux que leur domaine sur le col nord ait été envahi. Au lieu de discuter de monstres mythiques, nous fouillâmes les différentes tentes à la recherche de nourriture et d'eau. Il n'y avait ni bouteille ni thermos, et les maudits Sherpas qui avaient promis de nous attendre ici, au camp 4, 2 jours plus tôt, avaient aussi embarqué les sacs de couchage, les réchauds Primus et Una, mais Reggie dénicha 3 barrettes de méta qu'elle alluma et nous fîmes fondre de la neige fraîche dans des casseroles noircies au-dessus de ce feu rudimentaire. Puis Passang trouva 2 boîtes de spaghettis à moitié gelées sous un tas de vêtements abandonnés dans l'une des tentes Whimper, et le diacre une autre de jambon et de haricots de Lima. Nous les versâmes dans la dernière casserole pour la mettre à chauffer sur le maigre feu. Nous étions tous fatigués et déshydratés. Sans oxygène, je toussais sans arrêt. Mais bien que Lobsang Sherpa parut terrifié à l'idée de rester au camp 4 une minute de plus et que nous fussions épuisés et sans appétit, il nous fallait impérativement manger et boire quelque chose avant d'attaquer la falaise de glace. Le thé fut le bienvenu et nous nous forçâmes à avaler la nourriture. Avec 6 jumards à notre disposition et tant de cordes fixes installées, nous autres alpinistes aurions pu descendre en rappel la paroi de glace et les 250 mètres de pente raide en dessous, mais nous nous adaptâmes aux capacités de Lobsang et descendîmes par la longue échelle de spéléologue en nous servant des jumards et des nœuds de friction sur les cordes fixes comme prise et comme frein. La descente n'en fut pas moins relativement rapide et facile, malgré les nuages de plus en plus épais montant de la vallée du glacier du Rongbuk Est.
« Est-ce la mousson, Richard ?»
demanda J.C. alors que nous descendions en nous enfonçant dans le brouillard.
« Non, je ne crois pas. Les nuages se forment au sud, mais le vent souffle encore du nord-ouest. »
J.C. hocha la tête et économisa son souffle pour descendre en rappel. Il avait attaché Lobsang devant lui, et le Sherpa fatigué poussait un cri à chaque rebond. Nous trouvâmes 14 Sherpas, qui avec Lobsang constituaient la moitié du contingent avec lequel nous étions partis, rassemblés au camp 3. Il n'y avait pas assez de tentes pour les abriter tous. La plupart étaient assis, presque les uns sur les autres, dans les tentes mid et whimper, d'une manière qui eût pu sembler comique si leur visage n'avait pas trahi une telle terreur. Quelques autres étaient installés à l'extérieur autour d'un feu de camp.
Où diable avez-vous trouvé du combustible pour un si grand feu ?
Demanda le diacre au premier capable de parler anglais, Semchumbi, le cuisinier, qui était censé rester au camp de base ou au camp 1. Semchumbi ne répondit pas, mais Reggie montra une pile de petits bois à côté du feu. Les Sherpas avaient utilisé un piolet pour débiter toutes les caisses que nous avions montées au camp 3 en prévision des portages vers les campements supérieurs.
Alors là, bravo, dit le diacre. Ça, c'est trop fort.
Il attrapa fermement le cuisinier par l'épaule.
Et ce feu est censé éloigner les yétis?
Semchumbi hocha vigoureusement la tête et tout anglais oublié répéta.
Nitikanji. Nitikanji.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Demanda le diacre au docteur Pasang.
Homme des neiges, répondit Pasang. L'équivalent de Yeti qui vient de Ya-Té, signifiant homme des hautes altitudes, également appelé, comme vous le savez, Metokangmi.
Les hommes des neiges, répéta le diacre d'un ton dégoûté.
Est-ce que quelqu'un les a vus de ses yeux?
Tous les Sherpas se mirent à parler en même temps, mais Reggie et Pasang désignèrent le seul homme à avoir vu les monstres. Nawang Bura, qui était responsable de toutes les bêtes de somme pendant la randonnée et avait passé les trois dernières semaines au camp de base pour s'occuper des poneys et des yaks que nous avions gardés avec nous. Je savais que Nawang Bura parlait un peu anglais, mais comme Semchumbi, sa terreur semblait le lui avoir fait oublier. Reggie écouta les rafales de syllabes lancées par le petit homme trapu, puis les traduisit à notre intention.
Il dit qu'il est le seul homme à s'être échappé vivant du camp de base. Les Nitikanji sont arrivés hier soir, juste après la tombée de la nuit. De grandes créatures au visage terrible, avec des crocs, de longues griffes, de longs bras et une épaisse fourrure grise sur tout le corps. Nawang Bura revenait du camp 1 quand il les a vus massacrer tout le monde au camp de base. Il a donc fait demi-tour pour repartir en courant et il a eu la vie sauve. Puis il est monté ici avec les quelques autres Sherpas qui se trouvaient au camp 1 et 2. Aucun ne voulait rester dans la vallée avec les Metokangmi qui étaient en colère et affamés.
Affamés? M'exclamai-je. Nawang Bura a-t-il dit que les Yétis tuaient et mangeaient les Sherpas au camp de base?
Reggie transmit la question au muletier qui se lança dans une réponse de plus de 30 secondes, qu'elle traduisit par
« Oui ».
Ils étaient combien au camp de base?
Demanda le diacre. Nawang Bura et une dizaine d'autres répondirent en même temps.
Sept, dit Reggie. Sept Yétis.
Non, bon sang, je ne parlais pas des Yétis. Combien de Sherpas se trouvaient au camp de base? Et combien sont encore là-bas?
Reggie posa la question en népalais, et une fois encore, ils répondirent tous à la fois.
12 Sherpas, dit-elle.
Semchumbi dit que certains se sont enfuis vers le nord pendant la tuerie, s'éloignant de la montagne pour aller vers le monastère du Rongbuk. Mais il a vu d'autres Yétis les tuer avant qu'ils aient atteint la plaine de l'autre côté de la rivière.
Donc, résume le diacre, sept Yétis auraient tué une douzaine de puissants Sherpas.
Excusez-moi, intervint Pasang. Deux des Sherpas, Lakpa Yishei et Angchiri, n'étaient pas si forts que ça. Ils récupéraient au camp de base après leur amputation.
Sept Yétis auraient tué 10 puissants Sherpas et deux autres en convalescence, corrige le diacre.
Est-ce que quelqu'un a pensé à monter l'un ou l'autre des trois fusils qui se trouvaient au camp de base ?
Je dus réfléchir une seconde pour me souvenir du nombre de fusils que nous avions emportés dans l'expédition. Reggie en avait pris un pour chasser, de même que Passang et le diacre. Les trois armes étaient rangées depuis notre arrivée dans des caisses cadenassées entreposées à l'intérieur d'une tente fermée. Même le cuisinier devait demander l'autorisation à un saïb d'en utiliser une pour la chasse.
« Bon, nous avons au moins celui-ci, » dit le diacre en sortant un énorme revolver, un vrai, pas un verri, de son sac à dos.
Il fit basculer le canon pour nous montrer qu'il n'était pas chargé et nous laissa le soulever l'un après l'autre. Il était lourd. C'était un Webley Mark VI. Une solide lanière de cuir, noircie par la graisse, la sueur et la fumée, était fixée à l'anneau métallique sous la crosse.
Il s'utilise avec des cartouches de calibre 455, poursuivit le diacre en sortant une boîte.
Récupérant le revolver, il introduisit les six grosses cartouches dans le barillet.
Heureusement qu'on a une arme avec nous, dit Reggie.
C'est le revolver que vous utilisiez à la guerre, demandai-je. Je l'ai acheté avant de partir et l'ai utilisé pendant les 4 ans.
Maintenant, je regrette que nous n'ayons pas monté les fusils au camp 3 ou 4. C'était idiot de ma part de les laisser au camp de base. Je n'avais pas fait très attention à ces fusils, même quand Reggie et Passang étaient partis chasser avec. Je supposais qu'il s'agissait de modèles de chasse ordinaires, même si je me remémorais à présent que l'un d'eux, peut-être celui du diacre, était doté d'une lunette. Les Sherpas s'étaient remis à parler à Reggie, mais à voir Sem Tchoumbi baisser la tête, je compris qu'aucun d'eux n'avait pensé à forcer l'entrée de la tente des Saïbs et les cadenas des caisses pour prendre les fusils durant l'attaque des Yétis.
« Bon, peu importe, » reprit le diacre. « Nous irons chercher des tentes supplémentaires au camp 2 pour abriter les 14 Sherpas ici, puis nous 5 descendrons au camp de base prendre les fusils. « Lesquels d'entre vous veulent venir avec nous au camp 2 ?» demanda-t-il au Sherpa.
Le docteur Passang répéta la question en népalais. Aucun des hommes ne se porta volontaire.
« Bien, » dit le diacre. « Donc je vais choisir toi, 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 toi et toi. »
Il montra du doigt 6 Sherpas, dont Nawangbura et Sentumbi.
« Vous nous accompagnez au camp 2 pour nous aider à démonter quelques tentes et vous les rapporterez ici. »
Lorsque Passang traduisit ses propos, les hommes secouèrent la tête.
« Dites-leur que ce n'est pas une proposition, bon sang !» s'énerva le diacre. « C'est un ordre !»«
100 tentes supplémentaires, certains d'entre eux seront morts demain matin. »
« Dites-leur que nous restons avec eux au camp 2 jusqu'à ce qu'ils aient démonté 4 tentes pour les transporter jusqu'ici. Nous attendrons qu'ils soient en sécurité sur le glacier avant de descendre au camp de base. Et ils pourront prendre mon revolver pour remonter ici. »
Les 6 hommes soupirèrent et baissèrent la tête, même si 2 d'entre eux s'illuminèrent à l'idée d'avoir le gros Webley Mark VI. Sem Tchoumbi s'adressa à Reggie qui traduisit.
Le cuisinier dit que si c'est leur destin de mourir de la main du Yéti sur le Chomolungma, qu'il en soit ainsi.
Le diacre se contenta de grommeler.
Dites-leur de prendre leur sac à dos et de se bouger les fesses.
Reggie se pencha vers le diacre et murmura.
Est-ce vraiment sage de nous séparer de notre seule arme à feu?
Je ne m'en sépare pas, je la prête seulement à Sem Tchoumbi jusqu'à notre retour du camp de base. Il y a ici 14 Sherpas qui ont besoin de protection. Nous, nous avons au moins les 5 pistolets Véry.
10 minutes plus tard, nous étions prêts. Le diacre confia son Webley à Sem Tchoumbi d'un geste solennel, puis rangea son gros pistolet de détresse, chargé, dans la poche de son anorak Shackleton. Après un instant d'hésitation, Reggie, Passang, Jean-Claude et moi sortîmes nos petits pistolets Véry et les chargeâmes. Je choisis la cartouche blanche, de sorte qu'il ne me restait plus que la rouge.
Est-ce qu'on doit s'encorder pour descendre le glacier ? Demanda Jean-Claude.
Le diacre réfléchit une minute avant de répondre. Je ne crois pas. Vous marcherez à côté de moi en tête pour repérer les crevasses qui ont pu être recouvertes par la neige de la nuit. Jake, faites en sorte que les 6 Sherpas restent en file indienne derrière Jean-Claude et moi, qu'ils mettent bien leurs pas dans les nôtres. Reggie,
docteur Passang, vous fermerez le convoi. » Il ajouta à l'intention de Sem Tchoumbi, « Passe la lanière de mon pistolet à ton poignet. Oui, comme ça. Et ne le tiens pas par la crosse, sauf pour tirer sur quelqu'un. Il n'y a pas de sécurité, évidemment. »
Sem Tchoumbi manipula le lourd pistolet comme si c'était un cobra. Mais du moins, l'arme parut-elle rassurer un peu les cinq autres Sherpas et même ceux qui allaient rester au camp 3. Tout le monde hocha la tête. Nous nous mîmes en route pour entamer la longue et dangereuse descente sur le glacier.